Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire, ce matin, Kinshasa accueille bientôt le bureau pays de l'Agence de développement de l'Union africaine après la signature jeudi dernier d'un accord avec la RDC. Selon le ministre du Commerce extérieur, cette structure contribuera à mobiliser des partenaires financiers pour soutenir des projets de grande envergure, notamment les projets hydroélectriques Grand Inga et les corridors de Lobito. Au Nord Kivu, l'ONG Secours aux Vulnérables SAV lance une collecte de fournitures scolaires pour soutenir près de 2000 enfants vulnérables qui ont abandonné l'école au cours de l'année scolaire 2025-2026. Cette déscolarisation est liée à la précarité des familles touchées par les conflits armés depuis le début de l'année 2025. L'invité de ce journal est l'environnementaliste Fanon Mwamba, enseignant à l'université de Kinshasa. Il répond à l'épineuse question « Pourquoi les sciences de l'environnement peinent à répondre aux défis d'insalubrité dans la capitale congolaise ?» Entretien à suivre à la fin de ce journal. Encore une fois, merci d'être avec nous. La technique est assurée par Jean-Claude Siala. Mesdames, Messieurs, bonjour. Après la signature jeudi dernier à Kinshasa d'un accord entre la RDC et l'Union africaine, la capitale de la RDC accueille bientôt le bureau pays de l'Agence de développement de l'Union africaine, Aouda Nepad. La cérémonie, vous le savez déjà, a été présidée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la cité de l'Union africaine. L'accord a été signé par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongia, au nom du gouvernement congolais et par la secrétaire exécutive de l'Aouda Nepad, Dr. Nardos Bekele Thomas. Créé comme agence technique de l'Union africaine, ce bureau pays a pour mission de coordonner et de mettre en œuvre des projets prioritaires de développement à l'échelle régionale et continentale. D'autres détails avec Daniela Awa.
Le ministre du Commerce extérieur, qui est également envoyé spécial du chef de l'État auprès du comité de pilotage de l'AUDA NEPAD depuis juin dernier, a précisé que cette structure contribuera à mobiliser des partenaires financiers pour soutenir des projets d'envergure, notamment le projet hydroélectrique Grand Inga et le corridor de Lobito. Julien Palou.
Le développement de la RDC est une priorité du continent parce que les ressources que nous avons, le potentiel que nous avons, ces ressources-là et ces potentiels sont importants pour le développement du continent.
De son côté, le secrétaire exécutif de l'AUDA NEPAD, Dr Nardos Bekele Thomas, a salué le renforcement de la coopération entre l'organisation continentale et la RDC.
Quand on parle des programmes continental, la mise en œuvre de ce programme continental se fait au niveau régional et au niveau national.
L'agenda 2063 constitue la feuille de route stratégique de l'Union africaine pour promouvoir le développement économique, l'intégration régionale et la transformation du continent au cours des prochaines décennies.
Notez que le ministre du Commerce extérieur a indiqué que cette représentation servira de passerelle technique entre la RDC et l'Union africaine pour l'identification, l'intégration et le financement des grands projets nationaux en corrélation avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et puis, le projet d'extension de la ville de Kinshasa bénéficie désormais de l'appui technique de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT. Cette question a été au centre d'un échange hier vendredi, ici à Kinshasa, entre Thierry Katembembala, coordonnateur principal du comité stratégique pour la supervision du projet, et Nico Nzau Nzau, directeur général de l'ACGT. Des détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Ce projet dénommé Kinshasa Kiamona, traduisé en français la Renaissance de Kinshasa, constitue l'un des plus grands chantiers d'aménagement urbain et de développement socio-économique de la RDC. Ce vaste programme vise à transformer Kinshasa en un pôle économique moderne et dynamique. Il prévoit entre autres 17 500 hectares de logements et bâtiments divers, un agropole de 10 000 hectares, une zone industrielle et logistique, un hôpital et une université. La coordination de son comité stratégique a sollicité l'expertise de l'Agence congolaise des grands travaux pour un accompagnement en matière d'études, comme l'a expliqué le coordonnateur principal Thierry Katembembala.
Il a été question principalement d'une forte collaboration entre la coordination de l'extension de la ville de Kinshasa et la CGT pour les projets d'infrastructure. Il a été question de cette assistance technique permanente pour le suivi, les études, le contrôle.
Ce projet se propose également d'offrir une alternative moderne pour soulager un centre-ville saturé et surpeuplé avec une capacité d'accueil estimée à terme de plusieurs millions d'habitants. En décembre dernier, les chefs de l'État avaient donné un feu vert à ces travaux prévus sur une superficie totale de 43 300 hectares dans la commune urbano-rural de Maluku.
Et dans la province d'Ikwilou, les travaux d'aménagement des caniveaux sur les principales artères de Bandundu produisent des effets inattendus. Au-delà de l'amélioration des infrastructures urbaines, ces chantiers offrent des opportunités économiques à de nombreux jeunes en cette période des vacances scolaires. Reportage Jean-Claude Tangamou de la radio-télévision Bandundu Développement, rendu par Magloire Landou Mayemba.
Le travaux d'excavation réalisé par la société BBC dans les cadres des chantiers d'ivoirie ouvre de nouvelles perspectives économiques aux jeunes de la ville de Bandundu. Au-delà de leur impact sur l'amélioration du réseau routier, ce travaux permet également la valorisation des terres extraites. Ce terre servent en effet de matière première pour la fabrication des briques d'adobe destinées à la construction. Pendant que le travaux d'ivoirie s'est poursuivi dans plusieurs avenues de la ville, de nombreux jeunes profitent de cette ressource accessible pour développer une activité générale de revenus. Après transformation et séchage au soleil, les briques sont vendues aux particuliers ainsi qu'aux acteurs du secteur de la construction, procurant ainsi des revenus appréciables aux fabricants. Un fabricant des briques d'adobe témoigne.
Nous disons merci pour la société BBC. Ces briques vont nous aider pour la rentrée scolaire. Nous utilisons cette terre, nous ramassons pour fabriquer les briques. Nous prenons ça gratuitement.
À quelques semaines de la rentrée scolaire, cette activité constitue une source de revenus importante pour plusieurs familles. Les recettes issues de la vente des briques permettent notamment de préparer la rentrée des enfants à travers l'achat des fournitures scolaires, les paiements des frais de scolarité et la couverture d'autres dépenses essentielles du ménage.
Retour à Kinshasa, où plus de 4000 dispositifs électroniques fiscaux ont été mis gratuitement à la disposition des opérateurs économiques assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, qui ne disposent pas de leur propre système de facturation ni des moyens de s'en procurer. Ces équipements permettent d'émettre des factures normalisées, c'est-à-dire des factures conformes aux exigences de l'administration fiscale et facilitant notamment de mieux tracer les opérations commerciales. Annonce faite par le ministre des Finances à la clôture des cliniques fiscales organisées du 4 au 6 août à Kinshasa pour permettre aux contribuables de s'informer, d'être accompagnés et de régulariser leur situation face à cette réforme. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba, est au micro de Jocelyne Moussaou.
Pour faciliter la tâche aux opérateurs économiques qui pourraient se trouver en difficulté d'acquisition des dispositifs électroniques fiscaux dédiés à la mise en œuvre de la réforme, le gouvernement de la République démocratique du Congo a acquis de ses ressources propres plus de 4000 unités de facturation et de dispositifs électroniques fiscaux, mis à la disposition du monde des affaires de manière gratuite. Et pendant que je vous parle, tous les opérateurs économiques de la RDC assujettis à la TVA, qui n'ont pas leur propre système de facturation ou qui n'ont pas de dispositifs électroniques fiscaux, qui ne peuvent pas avoir la possibilité de les acquérir, les petites, les micros, les start-up et les PME peuvent approcher la Direction générale des impôts pour se renseigner.
Au Nord Kivu, je le disais au sommaire, plus de 2000 enfants ont abandonné l'école dans au moins 14 établissements de Goma et des territoires environnants au cours de l'année scolaire 2025-2026. Face à cette situation, l'ONG Secours aux Vulnérables SAV a lancé une campagne de collecte de fournitures scolaires pour soutenir leur retour à l'école. Selon son coordonnateur, cette déscolarisation est liée à la précarité des familles touchées par les conflits armés depuis le début de l'année 2025. L'organisation appelle à un élan de solidarité en faveur de ses enfants. Espoir Kikuni, son coordonnateur, est au micro de Bernard Nyangui.
Notre cible, ce sont les enfants orphelins vulnérables. Nous avions décrié plus de 2000 enfants qui ont abandonné l'école à cause du manque d'un accompagnement. Raison pour laquelle, dans la cité de Sac, le territoire de Nyiragongo et la ville de Goma, on a ciblé les enfants orphelins et vulnérables qui pourront bénéficier de cette campagne de mobilisation des fournitures scolaires. Donc, tout celui qui donne un cahier, un stylo, une chaussure, uniforme, ça va directement à ces enfants qui sont déjà identifiés dans les 14 écoles précisément que nous avions ciblées. La campagne, on a pris tout le mois d'août. Ce que nous sommes en train de lancer l'appel ci et là, c'est lui qui trouve la personne de bonne volonté, une organisation peut déployer quelque chose, nous récupérons et nous déposons directement dans un espace qu'on nous a accordé dans la paroisse Notre-Dame d'Afrique, Epe Katoi. Et la sœur nous a accordé cet espace et c'est là que même les communiqués qui se passent dans les églises, il passe directement déposer là-bas. Pour qu'à la deuxième semaine du mois de septembre, nous pouvons maintenant distribuer ces fournitures accompagnées pendant cette campagne.
Et toujours au nord Kivu, à Kassindiport, dans les territoires de Beni, une dizaine de pêcheurs ainsi que leurs pirogues et matériel de pêche restent détenus depuis plusieurs jours par l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, à la sous-station de Chahandiro sur les rives du lac Édouard. La société civile locale s'inquiète de cette situation et appelle à leur libération afin de préserver un climat de confiance entre les communautés des pêcheurs et les services de conservation. Les détails avec Marc Marofimbo.
La société civile de Kassindiport hausse les tons après la détention depuis la semaine dernière d'une dizaine de pêcheurs ainsi que de leurs embarcations et matériel de pêche à la sous-station de Jandiro. Selon ses responsables, cette situation rappelle les arrestations intervenues il y a quelques mois lorsqu'une quarantaine de pêcheurs étaient interceptés sur le lac Édouard par les éco-gardes du parc national de Virunga. Ces derniers étaient accusés d'avoir exercé leurs activités dans des zones de frayères protégées. À la suite de cette opération, plusieurs pirogues et équipements de pêche avaient été saisis puis transférés à Jandiro avant qu'une partie ne soit acheminé à Nyakakoma. La société civile affirme que les pêcheurs interpellés à l'époque ont recouvré leur liberté après le paiement d'amende. Toutefois, une partie importante de leur matériel de pêche n'aurait toujours pas été restituée. Face à cette situation, les acteurs de la société civile craignent une dégradation des relations entre les communautés riveraines et l'ICCN. Ils demandent la libération des équipements encore retenus et plaident pour une implication accrue des autorités afin de renforcer la réglementation de la pêche et la sécurité des pêcheurs sur le lac Édouard. Contactés par notre rédaction, les responsables de l'ICCN ont indiqué qu'il se prononcerait sur ces dossiers dans les prochaines heures. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
À Kinshasa encore, la synergie des femmes pour la paix et la sécurité appelle les acteurs politiques et sociaux à privilégier les dialogues pour sortir la RDC des tensions actuelles. Dans un communiqué rendu public hier vendredi, Anne-Jacqueline Kitoga, membre de cette plateforme, a réaffirmé son attachement au respect de la Constitution, à l'état des droits et à une participation accrue des femmes dans les processus de paix. Reportage signé Ella Chembalou et Gloriane Lepea.
Dans son message, la synergie des femmes pour la paix et la sécurité se veut une voie en faveur de l'apaisement. L'organisation encourage toutes les initiatives visant à rétablir la confiance et à créer les conditions d'un dialogue entre les différentes forces vives de la nation.
La synergie pour la femme, la paix et la sécurité salue les initiatives sans distinction de leur auteur qui contribuent à réduire les tensions, à renforcer la confiance entre les acteurs nationaux et à favoriser un climat propice au dialogue.
Pour cette plateforme, la recherche de la paix ne doit pas se limiter aux discussions politiques. Elle doit également prendre en compte la situation sécuritaire dans l'est du pays.
La synergie pour la femme, la paix et la sécurité appelle à un engagement renforcé en faveur de la prévention de conflits, de la consolidation de la paix, de la protection de femmes et de jeunes et de leur participation effective au processus de décision et de paix.
Dans la salle comme à distance, les participantes ont réaffirmé leur détermination à continuer de porter la voix des femmes dans les efforts de recherche de la paix en RDC.
Notez que Anne-Jacqueline Kitoga a invité ainsi toutes les parties prenantes dans la crise en RDC à privilégier les voies pacifiques dans l'intérêt supérieur de la nation. Face à la psychose suscitée par l'arrivée d'une embarcation en provenance de Kisangani, au port de la commune de Maluku, son bourgmestre a lancé un message d'apaisement à la population. L'intervention de cette autorité communale fait suite à l'interception du bateau mercredi dernier après le décès suspect d'un passager à bord. Alexis Mampa rassure sa population qu'aucun cas d'Ebola n'est encore découvert à Maluku. D'après lui, les équipes de l'INRB continuent à tester tous les passagers à bord du bateau immobilisé. Le bourgmestre Alexis Mampa s'est confié à Askins Gibatayoro.
Je ne peux pas confirmer ces cas parce que celui qui est décédé n'est pas décédé ici à Maluku. C'était à bord du bateau. Le bateau est ici chez nous à Maluku. Le bateau est au port de Benebende. Mais jusque-là, l'équipe de l'INRB sont là, en train de travailler. Hier, au moins, on a passé toute la journée avec son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais maintenant, là que je vous parle, il n'y a pas un cas positif par rapport au fléau de l'Ebola, même aussi du choléra. Donc peut-être, comme il continue à travailler, attendons jusqu'à la fin des tests que l'équipe de riposte de l'INRB est en train de faire. Ces corps ont été enterrés au niveau de Bolobo. Ce n'est pas ici au niveau de Maluku. Donc, soit au niveau de Kinshasa. Si je parle de Maluku, c'est dans la ville-province de Kinshasa. Il n'y avait pas un cadavre au bord de ce bateau-là.
Actualité internationale.
Au Sénégal, l'affaire des chroniqueurs pro-PASTEF relance les débats sur l'abrogation du délit d'offense au chef de l'État. Alors qu'ils jugent excessives et disproportionnées les peines de prison ferme prononcées à l'encontre des trois chroniqueurs proches du parti d'Ousmane Sonko, les militants de la société civile estiment que le recours au délit d'offense au chef de l'État n'a plus lieu d'être au Sénégal et demandent qu'il soit mis fin à cet article du code pénal.
L'invité.
Il s'agit de l'environnementaliste Fanon Mwamba, enseignant à l'université de Kinshasa. Il répond à l'épineuse question: pourquoi les sciences de l'environnement peinent à répondre aux défis d'insalubrité dans la capitale congolaise? Pour cet environnementaliste, la sensibilisation devrait passer par des voies familières à la population, notamment par des figures populaires capables de porter le message et de mobiliser les consciences. Il martèle sur la nécessité de repenser la communication scientifique pour lutter efficacement contre l'insalubrité à Kinshasa. Fanon Mwamba s'entretient avec John Tiboabwa.
Monsieur Fanon Mwamba, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous avons appris que la science n'est pour répondre aux questions que pose la société. Pourquoi les sciences de l'environnement ne répondent pas aux questions de l'insalubrité à Kinshasa?
La science, pour être science, il y a des principes qui doivent être déterminés, qui doivent définir même cette science. Alors, le problème, c'est que c'est tout. Et dans cet ensemble-là, il faudrait que l'on puisse tirer des responsabilités des uns des autres, tirer des responsabilités de ce qui devait être fait et ce qui n'est pas fait, pour ne pas dire seulement que la science de l'environnement ne répond pas. Mais pourtant, au cœur de l'environnement, il faut le dire, c'est l'homme. Et c'est l'homme congolais ou l'homme kinois qui pose problème aujourd'hui.
Comme vous parlez des responsabilités partagées, quelle est la responsabilité de la science sur la question de l'environnement, surtout de l'insalubrité à Kinshasa?
La part de la science, du côté publication, du côté normes, tout ce qui peut être fait, c'est fait. Les universités, autant à Kinshasa qu'ailleurs, aujourd'hui, on produit autant des articles et de mémoires, des thèses allant dans la gestion de l'environnement. Mais le gros problème en ce moment, comme je l'ai dit, c'est la diffusion de tout ce qui est réalisé. Parce que il faut noter que les responsabilités des universités ne se limitent pas seulement à la production. Il y a aussi l'aspect de la sensibilisation de la société qui doit suivre après, pour que la société aussi s'imprègne de tout ce qui s'est fait à l'université et que ces articles-là aussi puissent au moins aider la population. Ce qui est vrai, la science, pour ce qui est des écrits, ce qui est des articles, ce qui est de mémoires et thèses, il y en a autant, mais il y a ces problèmes de diffusion, de la vulgarisation qui serait en train de se poser pour que ces résultats puissent être mis à la place publique et que les uns les autres puissent s'imprégner et puis réaliser des bonnes actions, si je peux le dire.
Qui est censé diffuser les articles publiés? Est-ce l'université? Est-ce l'auteur lui-même? Est-ce de maisons de production?
La diffusion de résultats incombe la responsabilité de tout le monde. Moi-même, je suis scientifique à l'université de Kinshasa. Effectivement, la publication, c'est sous couvert de l'université qui doit suivre tout ce qui est réalisé afin que tout le monde puisse publier. Mais la diffusion, il y a un problème énorme chez nous. Je dis, je le répète, qu'il y a autant de travaux qui ont été réalisés dans ce sens, mais le problème n'est pas seulement la diffusion, parce que pour que je fasse mon DEA, pour que quelqu'un fasse sa thèse, il faudrait qu'il puisse publier autant d'articles. Et ces publications sont sur des revues, des journaux qui aujourd'hui sont des revues et des journaux internationaux. À ce moment-là, nous tournons vers l'international que vers la population elle-même. Alors il faudrait d'autres mécanismes, parce que les revues et les journaux internationaux où publions nos articles ne sont pas des canaux appropriés pour que un Kinois lambda prenne connaissance que le déchet jeté dans les caniveaux, le plastique peut prendre 100 ans pour être détérioré. Alors en ce moment-là, même si vous avez publié, vous avez mis à la place publique, vous avez divulgué, les Kinois lambda ne connaît pas ces réalités-là. Donc plutôt, moi je parlerai les canaux pour atteindre la population kinoise et congolaise. Ce serait différent aux canaux que l'on peut utiliser pour avoir des titres académiques comme nous le faisons maintenant.
Dans l'environnement, vous parlez du comportement collectif environnemental. Donc, lorsque un groupe s'associe pour protéger l'environnement. Alors, à Kinshasa, nous voyons le contraire. Qu'est-ce qui doit être fait dans un premier temps pour que la population prennent conscience de l'impact de l'insalubrité sur l'écosystème kinois?
Pour moi, je répondrai directement à la communication. Toute société a sa manière de communiquer. La manière de communiquer à Kinshasa ne devait pas être pareille que quand je communique, par exemple, dans un territoire où je peux communiquer par une sensibilisation, je mets la population ensemble. Il faudrait que l'on sache comment on fait pour que la population puisse s'imprégner de tout ce que l'on fait. C'est ça la difficulté que nous avons à Kinshasa. Personne ne travaille là-dessus. Ou il faudrait, avec les termes appropriés, dire à quelqu'un que ce que tu fais est mauvais. Parce que la population, elle se peut qu'elle ne comprend que son propre langage. Donc, il y a des gens qui peuvent communiquer aujourd'hui pour mieux donner l'explication à un Kinois qu'un politicien ou un professeur d'université. Je donne un exemple.
Et c'était notre invité, l'environnementaliste Fanon Mwamba, enseignant à l'université de Kinshasa, qui répondait aux questions de John Tshibwabwa. Fin de ce journal qui a été mis en onde par Jean-Claude Nsiala. Richard Junior Kamunga l'a préparé. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.